Vous êtes sur RTL.
L'actualité, c'est avec vous, Thomas Dulin, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Le tout info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce samedi.
Et à la une, le soulagement des libraires. Après des mois de bataille, leurs enseignes sont désormais considérées comme un commerce essentiel. Décret publié hier au journal officiel, les librairies resteront donc ouvertes en cas de reconfinement. Écoutez la joie immense de l'écrivain Alexandre Jardin en apprenant la nouvelle.
Ah oui, je suis content. Non, mais quelle beauté. Il faut toujours se battre pour ses valeurs. Et ça, c'est une vraie victoire collective. On rétablit la France dans ses valeurs. Il n'y a rien de plus joyeux que lorsque ce pays arrête d'être indigne. J'adore ça. C'est-à-dire, la France et le livre, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'identité. On est l'autre peuple du livre. J'ai appris par un Américain que Obama même avait été sidéré que les librairies françaises ferment. Et tout à coup, les librairies sont des commerces essentiels. À force d'emmerder le gouvernement, on a aussi aidé Bachelot à gagner. Prenons soin nous-mêmes de notre pays. Lorsqu'on voit un truc qui déconne, bougeons-nous le cul.
Voilà, c'est dit l'écrivain Alexandre Jardin avec Valentin Boisset pour RTL. Les librairies des agglomérations niçoises et dunkerquoises reconfinées ce week-end resteront donc ouvertes. Ça ne sera pas le cas en revanche des plages et de la promenade des Anglais à Nice fermée aux promeneurs sur décision du maire Christian Estrosi. Par ailleurs, vous le savez, une vingtaine d'autres zones ont été placées sous surveillance renforcée en raison de l'aggravation de l'épidémie. La région parisienne, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et une partie des Hauts-de-France et du Grand Est notamment. Ce matin, Jean Castex rencontre les préfets de ces 20 départements pour faire le point sur la situation. Des mesures sanitaires plus strictes pourraient être annoncées dès la semaine prochaine.
Et on espère évidemment qu'un jour, ces restrictions seront levées. Thomas, à ce sujet, Emmanuel Macron donne des perspectives.
Oui, le président tient une réunion la semaine prochaine avec des membres du gouvernement en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants. L'une des idées évoquées par l'exécutif, la mise en place d'un pass sanitaire, Jacques Serret.
Oui, si pour l'instant l'exécutif se refuse à évoquer la mise en place d'un passeport vaccinal, Emmanuel Macron veut tout de même tracer un horizon pour l'après-Covid. D'où cette idée évoquée par le président de passeport sanitaire. Et il se pourrait bien que l'application Tous Anti-Covid soit au centre de ce processus, notamment pour permettre à ses utilisateurs d'attester qu'ils sont négatifs en montrant, par exemple, leur test PCR sur leur smartphone. L'autre piste du chef de l'État, c'est le développement des QR codes. Par exemple, avant de rentrer dans un restaurant ou une salle de sport, il faudrait flasher avec son téléphone, ces petits points noirs dans un carré à fond blanc. L'objectif, c'est que chacun puisse être enregistré afin de retrouver plus facilement les cas contacts. Alors concrètement, les contours de ces outils sont encore flous, mais c'est une manière comme une autre pour Emmanuel Macron de positiver et de donner des perspectives aux Français.
Jacques Serret du service politique de RTL.
Les entreprises qui ne jouent pas le jeu du télétravail pointées du doigt par le gouvernement.
Le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, la Massif, au total 52 sociétés ont été mises en demeure pour non-respect du travail à distance depuis le mois d'octobre. Luc Mathieu, secrétaire général de la CFDT, Fédération des banques, dénonce un manque de dialogue de certaines directions au sujet du télétravail.
La question que nous on pose, c'est est-ce que on peut faire mieux en matière de télétravail ? Et la réponse pour le secteur de la banque est très clairement oui, on peut faire mieux. Les services centraux sont aujourd'hui à peu près à 80% de télétravail. Les agences sont à quelques pourcents. Donc il y a des marges de manœuvre quand même significatives. Pour ça, il faut se mettre autour d'une table et discuter des activités qui sont télétravaillables, de celles qui ne le sont pas, comment on organise les agences, etc. Et aujourd'hui, les employeurs s'y refusent. Prétexte que c'est compliqué, qu'il y a des agences qui n'ont que 3 personnes, on ne peut pas organiser de télétravail, mais il y a aussi des réseaux qui précédemment ont organisé des rotations entre agences. Ça permettait de télétravailler sans pour autant dégrader le service à la clientèle. Mais tout ça, il faut que les employeurs acceptent en fait que ces modalités d'organisation du travail soient un objet de dialogue social. Et pour l'instant, ils ne sont pas résolus en tout cas.
Luc Mathieu, joint par Valentin Boisset pour RTL. Pour la troisième fois en une semaine, un adolescent tué en région parisienne. Cela s'est passé hier à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Un garçon de 15 ans a été abattu dans une maison de quartier, tué par balle par 2 individus qui ont pris la fuite. Ils sont toujours recherchés. Cette semaine, 2 adolescents de 14 et 15 ans avaient déjà perdu la vie en Essonne après de violentes bagarres.
On passe au sport, Thomas, avec un grand coup de balai à l'Olympique de Marseille.
Un communiqué surprise a été publié hier soir dans un contexte de crise au sein du club phocéen. Son propriétaire, l'américain Frank McCourt, a annoncé la nomination de l'argentin Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. Jacques-Henri Hérault, sur la sellette depuis plusieurs semaines, est quant à lui écarté de la présidence, remplacé par Pablo Longoria, directeur sportif. Il était temps, selon Anthony, supporter et membre des Fanatics de l'OM.
Ça y est, Hérault, il part. Bon, il part à moitié en fait, hein, parce qu'il est encore là dans le conseil de surveillance. Mais content que ce soit Longoria, je le sentais un peu arriver aussi. C'est le seul que je sentais déterminé et sincère quand il parlait de projet, d'avenir. Je le voyais s'inscrire vraiment dans un vrai projet avec nous. Je ne sais pas, il me plaît, on verra, on va lui laisser sa chance.
Est-ce qu'il a le, est-ce qu'il a, c'est le personnage qu'il faut pour Marseille?
Il y ressemble plus déjà. Oui, oui, il y ressemble vraiment plus. Hein. Il est bon en communication, mais en restant sincère, je trouve, intéressant aussi. Il a l'air d'être intelligent et de connaître son sujet. Ça donne le sourire, même si je ne réalise pas encore. Je ne me réjouis pas vraiment encore, voilà. Et c'est une info comme ça qui me surprend et c'est bien, ça faisait longtemps.
Témoignage recueilli par Samia Belbachir pour RTL. On reste sur le foot, sur le terrain. Cette fois, la troisième défaite consécutive de Rennes. En Ligue 1, les Bretons se sont inclinés 2-1 contre Nice dans le cadre de la 27e journée. À suivre aujourd'hui, Bordeaux-Metz à 13h et Dijon-PSG à 17h. Un rendez-vous foot ce soir sur RTL dès 18h30. On refait le match suivi de RTL Foot à 20h.
Attention, conseil, soyez vigilants. Hein. Attention aux arnaques dans votre boîte mail.
Oui Agnès, depuis quelques mois, une nouvelle technique a fait son apparition. Des escrocs se font passer pour des enquêteurs de la police. Ils vous font croire que vous avez consulté des sites pédopornographiques avant de vous réclamer de l'argent. Alors soyez vigilants, hein, car la technique est bien rodée, Alice Moreno.
Oui, les photos de vous dénudées que vous envoyez aux mineurs ont été enregistrées par notre cybergendarme. Voilà le message envoyé par les usurpateurs à plus d'un millier d'internautes, accompagné de menaces. Si vous ne nous écrivez pas, nous pourrons transmettre votre dossier aux médias ou à vos proches. La France entière verra ce que vous faites devant votre ordinateur. Si la victime répond, le faux enquêteur lui demande alors de régler sur le champ une amende et toutes les poursuites devraient cesser. Certains internautes ont réglé ces sommes de 750 à 18 000 euros. Les escrocs se sont donné du mal pour ce faux courrier. Ils ont intégré un logo de police judiciaire en entête et même des noms de patrons de police, existants ou non. Mais plusieurs défauts peuvent alerter le destinataire. D'abord, ce mail est truffé de fautes d'orthographe. L'adresse physique de la brigade de protection des mineurs n'est pas la bonne. Et puis, les vrais enquêteurs rappellent qu'un service de police judiciaire ne demande jamais d'argent.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Il y a 40 ans, le TGV établissait un nouveau record.
Oui Agnès, un record de vitesse, 380 km/h, plus de 100 mètres par seconde. C'était le 26 février 1981, le train qui a accompli cet exploit, la rame 16, est à la retraite. Mais pour cet anniversaire, il a été remis sur les rails, bichonné, entretenu par des cheminots passionnés. Le reportage de Sébastien Rouxel.
C'est forcément sous des applaudissements nourris que cette fameuse rame 16 est entrée dans l'atelier. Beaucoup d'émotions chez les cheminots qui ont travaillé dessus ces derniers mois et notamment chez Jean-Marie.
C'est génial, c'est vraiment très très chouette de ressentir ça. On a beaucoup donné. Alors c'est vrai aujourd'hui de l'avoir rentré dans l'atelier, c'est extraordinaire, ça m'a fait chaud au cœur.
Et il faut dire qu'ils en ont passé du temps pour la remettre en état.
On fait des heures après les autres boulots. Il a fallu contrôler tous les panneaux de frein, les repasser au contrôle pour voir s'ils étaient dans les normes. On a refait des réglages, voit une rame qui reste 2 ans sans tourner, les caoutchoucs, tout ça, les membranes, ça souffre un petit peu quoi.
Du travail donc, mais par passion, cette rame 16, c'est une véritable légende. C'est même elle qui a donné envie à Fabien d'entrer à la SNCF.
Moi j'avais que 50, mais c'est vrai que moi ça a tilté de voir ces rames orange et puis on a quand même battu le record de vitesse. Alors évidemment, 5 ans, c'est la vocation. Ça m'a donné envie de les conduire et de conduire tous les types de trains.
Tous veulent désormais la voir parcourir la France pour faire vivre ce patrimoine en espérant d'ici là lui avoir fait retrouver l'orange, sa couleur originelle.
Le reportage de Sébastien Rouxel. Puis pour terminer, c'est un Suisse qui rafle la mise à l'euro-million. Il remporte la somme record de 210 millions d'euros. Pour vous donner une idée, Agnès, si un Français avait gagné cette somme, il deviendrait directement la 399e fortune du pays.
Alors, pardon Thomas, en Suisse, vous êtes sûr?
Je suis sûr, oui.
Le billet a été validé en Suisse.
Oui.
Mais s'il faut... C'est un Français qui a joué en Suisse.
Oui, effectivement, c'est vrai.
En tout cas, ce n'est pas nous, ça c'est
non,
sûr.
Non, c'est sûr.
Merci beaucoup Thomas. À tout à l'heure, à 8h30,
à
dans un instant, nous retrouverons Christophe Bourron. On ne pourra jamais s'acheter la voiture dont il va nous parler.
Dommage.
À tout de suite.
RTL Matin.
Week-end.
Avec Agnès Bonfillon.